et vous écoutez France Culture. L'avenir n'appartient pas aux morts, mais à ceux qui font parler les morts, qui expliquent pourquoi ils sont morts. Georges Bernanos, et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais genre qui s'unit ce soir au week-end consacré par France Culture à la commémoration du centenaire de l'armistice du 11 novembre 1918. Une émission où nous tenterons de répondre, grâce à Junger, Malaparte et Bernanos, à la question « Peut-on dire la guerre, l'écrire, sortir de l'ombre de la guerre ?» et quel type de lueur peuvent y apporter survivants et écrivains. Pour évoquer ce thème d'une incessante actualité, avec moi ce soir l'historien Nicolas Beaupré et le philosophe et éditeur François Livonnet. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais genre au champ des morts ce soir, en ce 10 novembre 2018, pour évoquer donc le centenaire de l'armistice. Je serai en compagnie de Nicolas Beaupré, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Nicolas Beaupré, vous êtes avec nous, puisque vous êtes peut-être l'historien qui s'est le plus consacré aux écrits de guerre, tel est le titre en tout cas d'un livre que vous avez publié chez CNRS Éditions et qui est disponible dans la collection de poche des dites éditions du CNRS. Donc écrits de guerre 1914-1918, vous avez également participé à Écrivains en guerre 14-18, Nous sommes des machines à oublier, publication de Gallimard et d'Historial de la Grande Guerre, et puis là, une exposition à la médiathèque de Moulins, on peut en dire quelques mots?
Oui, c'est une exposition qui a commencé au mois d'octobre et qui présente pas seulement les écrivains combattants, mais les écrivains et les auteurs qui ont écrit pendant la guerre et sur la guerre en France, depuis le front ou depuis l'arrière, et qui donc tentent de dresser un panorama en fait de toutes les interventions littéraires possibles sur le conflit en cours, que ça soit la poésie, la littérature, mais aussi les essais ou les écrits politiques.
Et les dessins, les peintures.
Et aussi effectivement le dialogue en fait entre l'écrit et les arts plastiques en général.
Très bien, ben avec vous ce soir on va voir trois figures parmi les plus saillantes de cette thématique de l'écrivain et à la guerre, à l'écrivain combattant. Bonsoir François Livonnet.
Bonsoir.
Alors avec vous on continue ce que j'appelle une expression à la mode en ce moment, l'itinérance mémorielle, puisqu'après Céline, Drieux et Junger, vous êtes de nouveau avec nous, on parlera de Malaparte et de Junger ce soir.
Très bien, très bien.
Parce que vous êtes l'auteur aux éditions Le Mieux du Une apologie d'Ernst Junger, fort percutante.
Merci.
Voilà, donc il faut le dire. On va, avec vous, on va parler de Junger, mais on parlera aussi de Bernanos, bien sûr, et du cher Léon Blois, qui est toujours un peu présent avec nous en ces moments de commémoration de 1918. Nicolas Beaupré, jeune voix au Panthéon, réaction?
Alors, je ne vois au Panthéon, ça s'inscrit déjà, on peut le dire, dans presque une tradition, on va dire, puisqu'en 1927, une cérémonie, en fait, au Panthéon, a eu lieu, déjà, pour honorer la mémoire des écrivains morts à la guerre. Cérémonie organisée par l'Association des écrivains combattants, qui avait été fondée en juillet 1919, et qui avait entrepris un grand travail anthologique, pour rassembler le nom de tous les écrivains qui étaient morts à la guerre. Ce travail anthologique, cette réflexion, en fait, avait déjà commencé pendant la guerre, puisqu'en novembre 1914, un bulletin des écrivains avait été fondé par la Société des gens de lettres et deux journalistes du journal L'Intransigeant, qui rassemblaient de manière systématique, ou en tout cas le plus systématique possible, le nom des écrivains morts à la guerre et qui donnaient aussi des nouvelles de ceux qui étaient mobilisés au front. Donc en fait, on s'inscrit avec cette panthéonisation de Genevoix dans une tradition en fait de l'hommage aux écrivains combattants en fait.
François Livonnet, si vous deviez mettre un écrivain combattant au Panthéon, ce serait lequel?
Non, très bien. Genevoix, je voudrais simplement qu'on n'en reste pas à ce qu'a fait le regretté Bernard Maris, qui était l'époux de la fille de Genevoix et qui opposait Junger à Genevoix, prenant la défense de Genevoix contre Junger, une opposition qui n'est pas nécessaire à mon avis.
Voilà, et que nous ne poursuivrons pas donc dans cette émission. Nicolas Beaupré, rapidement, qu'est-ce qui vous a attiré justement dans cette histoire de la Première Guerre mondiale d'abord, et puis cet aspect littéraire?
Alors, à la fois des histoires de famille, comme souvent, hein, puis aussi des rencontres avec des maîtres, hein, qui ensuite m'ont accompagné aussi dans mon parcours d'historien, hein, des histoires familiales, parce que je suis moi-même d'origine franco-allemande, hein, et donc j'ai des grands-parents ou des arrière-grands-parents qui ont combattu des deux côtés du front, hein, un grand-père du côté allemand, hein, qui était né en 1898, hein, qui s'était battu sur le front de l'Est et en Picardie, mmh, aussi, et puis du côté français, un arrière-grand-père. Puis après, voilà, j'ai grandi en Lorraine, hein, j'ai fait mes études dans le nord de la France. À Lille, donc effectivement, et là dans le Nord, et ensuite j'ai rencontré Annette Becker, qui était une grande spécialiste de la Première Guerre mondiale, et donc voilà, j'ai fait ma thèse avec elle, quoi. Donc il y a à la fois des circonstances familiales et géographiques, et puis des rencontres
et d'un paysage,
voilà, des affinités électives aussi.
Très bien, avec vous ce soir, donc on va évoquer les écrivains combattants, mais avant cela, place à d'autres fantômes, ceux, je dirais, évoqué par vous, Céline, ce soir.
Oui, grâce à une artiste qui s'appelle Rebecca Tollens.
C'est comme un peu une mission de vie. J'ai senti ça depuis que je suis petite, qu'il faut absolument que je trouve la lumière là où il n'y en a pas. Je peux me retrouver dans un peu des circonstances noires, même en relation, même en tout, quoi, des trucs. Je pense que j'ai pas trop peur de cette obscurité. Enfin, pour moi, c'est pas vraiment une obscurité. Donc, du coup, ça peut être un truc un peu plus spirituel, peut-être. Mais je pense pas que c'est un écho très joyeux pour d'autres personnes. Tout ce qui est fantôme, tout ce qui est lié à la mort, ça me réconforte plutôt que ça me fait peur. Ça me fait pas énormément de choses, au fait. Plutôt, c'est juste le même équilibre et calme que la vie ou la lumière en soi.
Les dessins de Rebecca Tollens sont en noir et blanc, faits à la mine de plomb ou au fusain, mais sa matière première, ce serait peut-être plutôt la lumière, comme un écho à son enfance passée en Suède, la lumière pour faire surgir les ténèbres, à moins que ce soit le contraire. Lorsque l'on regarde ses dessins, c'est ce jeu avec le clair-obscur qui frappe à prime abord. Puis on voit le décor, une nature nordique, quand elle n'est pas onirique, des personnes, beaucoup d'enfants, dont le visage exprime un trouble, une attente. Il y a par exemple ce petit garçon blond qui semble venir tout droit du début du XXe siècle. Ses cheveux sont transparents, ses joues foncées, saisies par le froid, ses yeux blancs, comme quasiment chez toutes les personnes de Rebecca Tollens. Plus le temps passe, plus l'humain devient aveugle, explique l'artiste. Ce petit être voit des choses que nous ne pouvons pas voir, les autres mondes que traverse Rebecca Tollens.
Les Airpal, c'est des enfants qui sont tués par leur mère et qui reviennent du coup tant que fantômes et qui vont crier jusqu'à ce qu'un humain vivant leur donne un nom. Ça vient beaucoup de mes rêves du coup. C'est un jeu un peu inconscient que j'ai dans ma tête et dans mon corps depuis que je suis petite. Il y a beaucoup de fantômes présents, souvent des enfants. Les enfants m'ont toujours beaucoup touchée et c'est juste que c'est tellement pur quand ils sont nés, quoi. Et je pense que ça revient dans mes rêves tout le temps en forme de mort. Pour moi, c'est juste la pureté de choses et que ils font des trucs souvent en collectif. Je les vois souvent en masse ou c'est un truc avec un regard. Enfin, j'essaie de ne pas trop analyser, mais juste de contempler ce que je comprends pas.
Vous en avez fait des dessins?
Oui, j'en ai fait 4, du coup, 4 Airpal. Là, il y en a 2, par exemple. Je l'ai écrit. Celui à droite, là, par exemple, je l'aime beaucoup, lui. Je pense que c'était le premier image qui m'a vraiment fait écho à ça. C'est une fille qui a l'air un peu sale. Enfin, il y a des taches un peu sur ses vêtements. C'est très noir autour d'elle, on voit, c'est comme si c'était juste allumé un peu avec une bougie ou quelque chose. Et elle a une petite mouche sur le front. Je sais pas, celle-ci, celle-là, je l'aime bien. Elle m'a particulièrement touchée dans ce contexte-là. Ça devient presque comme des petits amis, mes dessins. Il y a certains que je n'arrive pas à supporter du tout et qu'il faut que je prenne du temps à revoir. Il y a certains où c'est vraiment des coups de cœur. Je me sens hyper liée à ce dessin directement. Et par exemple, celui-là, ça fait partie. Mais il y en a certains où je n'ai pas copain, quoi. quand on n'est pas copain avec un dessin, j'essaye de retrouver ma patience et de trouver un calme pour essayer de trouver des angles qui me provoquent quelque chose de bien dans le dessin, pour essayer de retourner la situation un peu. Et je laisse un peu le temps passer, j'essaye de juste le regarder, observer un peu de loin. Je le mets souvent dans l'atelier quand même, dans un coin où je sais qu'il est là, quoi. J'ai pas besoin de le voir tout le temps, mais je sais que je peux le regarder. Et parfois, c'est horrible, mais il faut juste couper les liens, quoi. Il faut juste que je le jette, quoi. Mais voilà, je fais tout pour que... Faut quand même essayer de comprendre qu'est-ce qui va pas.
Pour découvrir l'univers de Rebecca Tollens, rendez-vous sur son site www.rebeccatollens.com ou alors passez en Belgique, à Bruxelles, rue Haute, où elle expose à la galerie L'Art Tichot. L'exposition dure jusqu'au 25 novembre et c'est aussi l'occasion de retrouver tout un autre pan de l'univers de Rebecca Tollens en lien avec la mythologie Sami, ce peuple autochtone qui vit dans le nord de l'Europe, que Rebecca Tollens a rencontré et dont les histoires et les croyances ont donné lieu à des séries de dessins. Et pour retrouver par ailleurs les livres publiés par l'artiste, rendez-vous sur la page internet de Mauvais Genre.
Merci Céline pour cette entrée. Donc Rebecca Tollens de notre encyclopédie pratique des Mauvais Genres. Nicolas Beaupré, une réaction sur l'univers sombre et fantomatique de cet artiste?
Alors une réaction, je ne sais pas, en tout cas les fantômes, ça résonne en fait avec la Première Guerre mondiale, évidemment, hein, parce que ce thème des fantômes qui viennent hanter, hein, comme elle le dit elle-même, les vivants, il est présent déjà dans les représentations artistiques et littéraires de la Première Guerre mondiale, hein, d'ailleurs pendant puis après le conflit, hein, qu'on pense aux morts qui se lèvent, hein, au thème des morts qui se lèvent, hein, soit pour continuer le combat, comme avec le livre de Jacques Péricard, hein, qui raconte, oui, cette légende Debout les morts, hein, ou encore les morts qui se lèvent dans le film d'Abel Gance, J'accuse, hein, ou dans les romans de d'Orgelès, hein, qui viennent effectivement jusque dans l'après-guerre en fait hanter les vivants. Et c'est aussi le titre, hein, du beau monument de Paul Landowski, Les fantômes, hein, sur la butte de Chalmont, hein, qui commémore la seconde bataille de la Marne qui a mis fin à la guerre.
Tant de fantômes, François Livonnet.
Oui, pour vraiment, c'est une excellente transition pour ce qui suit. Je lirai juste cet extrait de Malaparte, hein, à propos des premiers morts découverts par les combattants. Les yeux grands ouverts sur le monde, ne regardant rien ni personne, mais voient tout et tous. On dirait des cadavres d'hommes devenus fous d'un seul coup, d'hommes qui ne voulaient pas mourir. Ces morts font peur parce que trop humains.
Merci messieurs, merci madame. Nous allons maintenant retrouver l'univers des morts et des écrivains de la Grande Guerre. Une playlist idéalement funèbre et martiale concoctée par Laurent Polleret, donc ce soir pour Mauvais Genre sur France Culture, qui s'intéressera à quelques-uns parmi les plus connus des auteurs et des écrivains combattants européens. Alors Nicolas Beaupré, je rappelle qu'il y a cet ouvrage, émané de votre thèse, Écrit de guerre 1914-1918, chez Cénérès Éditions, qu'on peut lire dans la collection de poche Biblis. Il faudrait peut-être commencer par faire une sorte de typologie liée à la chronologie des écrits de guerre, puisque quand on vous lit, vous suivez la chronologie 1914-1920, on voit qu'il y a la production éditoriale pendant la guerre. Il fallait absolument trouver quelque chose qui témoigne de ce qui était en train de se passer, que l'arrière sache ce qui a avait à l'avant, et de façon, je dirais, qui réponde un petit peu aux demandes du public. Et puis il y a ces auteurs de l'immédiate après-guerre, et puis après, alors les font parler des fantômes, du souvenir qui reviendra même dans les années 30, voire 40, on le verra avec Bernanos. Donc quelles sont un petit peu les typologies des écrits de guerre ?
Déjà, il faut noter que effectivement, pendant la Première Guerre mondiale, la littérature combattante, hein, en France, on parle des écrivains combattants, en Allemagne, des Frontdichter, des poètes du front, en Grande-Bretagne, des soldier poets. Donc, c'est un phénomène éditorial, hein, qui est identifié comme tel, hein, qui se cristallise dès le début du conflit, notamment avec d'abord l'écriture de très nombreuses poésies, hein, des poésies du départ, hein, dès le début de la guerre.
Plutôt en Allemagne, la poésie.
Oui, en Allemagne, en Angleterre, mais aussi en France. Elle est peu connue, elle a été moins travaillée par les historiens, mais elle existe. Hein. Il y a eu une étude inachevée qui recensait plus de 2000 poètes de guerre français. Donc, c'est pas un phénomène négligeable du tout. D'ailleurs, il y a un projet de recherche actuellement mené par Laurence Campa,
grand spécialiste d'Apollinaire,
hein, qui dirige un projet de recherche à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, hein, qui justement tente un inventaire de cette poésie de guerre française. Et puis, avec l'immobilisation du conflit, d'autres formes d'écriture, la poésie ne va pas être abandonnée, hein, mais d'autres formes d'écriture aussi vont émerger, notamment les écritures testimoniales, hein, que ce soit le journal intime, hein, le journal de guerre, ou le récit de guerre. Journal intime qui d'ailleurs souvent va servir de base en fait à une réécriture, hein, comme pour Junger par exemple, hein, puisqu'on sait que son premier livre, Orage d'acier, est en fait issu en fait de ses journaux, de ses carnets de guerre en fait qu'il a retravaillé. C'est le cas aussi pour Genevoix, hein, par exemple. Donc on a dans le conflit, hein, une littérature testimoniale.
Hein. Alors justement, vous l'évoquez dans Écrits de guerre, notamment avec l'étude exhaustive des archives de la maison Berger-Levrault, grand imprimeur-éditeur. Il s'agissait pour l'éditeur de répondre à un lectorat qui exigeait d'en savoir plus. Alors qu'on allait quêter les lettres, les journaux, on allait chercher
des auteurs
partout.
Inconnus. Alors effectivement, il y a déjà une première vague de publications où on a beaucoup d'auteurs connus, hein, puisque la guerre a mobilisé beaucoup de monde dans le champ littéraire. Des auteurs ont été mobilisés, d'autres se sont engagés. Hein, par exemple, Barbus, hein, il s'est engagé volontaire. Il a publié une lettre ouverte dans l'Humanité. Donc, il y avait déjà des écrivains qui partaient au front. Et ils ont été rares, ceux qui sont restés silencieux. Bernanos, de ce point de vue, il fait presque figure d'exception.
Ouais, hein,
parce que lui, il parle pas pendant la guerre, en fait. Hein, ou Jean-Richard Bloch, par exemple. Alors que la plupart des écrivains qui partent au front, eux, ils vont écrire sur le conflit, en fait. Hein, ils vont raconter leur expérience de guerre, ou alors ils vont transformer celle-ci comme le feu de Barbus. Donc on a véritablement cette première vague-là, puis après on va avoir une seconde.
Alors je reste un peu sur cette vague-là. Mmh. Elle génère quand même. Bon, il y a d'abord, on ne peut pas raconter n'importe quoi. Mmh. Quelle est la place de la censure ? Et puis naît de cette écriture, de ces pages arrachées au feu, une esthétique, puisque il faut avoir une esthétique minimaliste. Il ne s'agit plus de faire de la littérature. On n'est plus à la Belle Époque. Alors, donc il y a une littérature électrique, brève, urgente, courte.
Alors oui et non en fait. Alors effectivement il y a une littérature qui va tenter effectivement notamment par des moyens issus des recherches avant-gardistes avant la guerre de rendre compte de la modernité du conflit,
futuriste,
mais aussi futurisme, expressionnisme en Allemagne ou Apollinaire en fait, hein, qui va trouver finalement dans la guerre un moyen de développer les calligrammes qu'il avait inventés juste avant en fait, hein, et qui vont donner des œuvres absolument, absolument magnifiques, mais on a aussi une littérature extrêmement réaliste, hein, notamment, que ça soit Genevoix ou d'une autre manière, d'Orgelès ou le feu de Barbus, hein, qui s'inscrivent quand même dans une veine, on va dire, qui est celle du roman réaliste ou naturaliste.
Dans les années.
Du roman naturaliste du 19e siècle, en fait. Hein. Donc, il y a aussi cette filiation-là. Il n'y a pas seulement la filiation moderniste, hein, qu'on va voir dans Malaparte, par exemple, hein, dont on va parler tout à l'heure. Mais il y a aussi cette veine-là. Et c'est cette veine-là qui est finalement la plus importante pendant le conflit. Hein, avec, comme genre dominant, pour simplifier à l'extrême, hein, le récit de guerre. Hein, ça va être le genre qui va dominer le marché.
Avec des collections dédiées.
Voilà, avec des collections dédiées de mémoires, de journaux, qui va dominer le marché. La fictionnalisation commence,
Pendant le conflit.
Pendant le conflit, mais c'est surtout un phénomène de l'après-guerre.
Justement, on va en parler. François Libonnet, sur justement ces écrivains, ces combattants qu'on pousse vers l'écritoire pour des raisons commerciales, quand même, et à la fois idéologiques.
Oui, commerciales pour certains, idéologiques. Par exemple, on a demandé, je crois, à Genevoix, lorsqu'il a été blessé, de témoigner quand il était à l'école normale, ayant quitté le front. Oui, je crois que ce que vous avez dit. Nicolas Beaupré est important, c'est-à-dire que ce ne sont pas simplement des témoignages, ce sont des œuvres littéraires, donc ces œuvres littéraires, ce sont des créations esthétiques, et comme telles, on est pris de façon un peu ballottée entre d'un côté une appréciation de la valeur du témoignage, et de l'autre, de la valeur esthétique du texte. Et ça, concernant par exemple Junger ou Malaparte, cet enjeu est quand même majeur, parce qu'on risque de passer un peu facilement d'un des registres à l'autre.
Cette tension, d'ailleurs, elle se cristallise en France dans les années 30, à la fin des années 20 et au début des années 30, autour du livre de Jean Norton Cru, donc témoin et ensuite du témoignage. Jean Norton Cru défendant effectivement une vision extrêmement normative du témoignage, fondée en fait sur effectivement sa seule valeur documentaire et testimoniale, mais aussi morale. Pour Jean Norton Cru, le témoin est un témoin moral, dont le témoignage est amené, en fait, s'il dit la vérité, il rendra quasiment impossible la répétition de toute guerre. Et donc lui,
se méfie de la littérature.
Ouais, il apprécie beaucoup Genevoix parce que Genevoix, il est capable des deux d'une certaine manière. Mais en même temps, Jean Norton Cru, en creux, finalement, il dessine aussi une esthétique du témoignage qui met au second plan, effectivement, la recherche littéraire. Et ça intervient, ce débat-là, il intervient pile au moment de la seconde vague de littérature de guerre, qui est celle donc des années 20-30, qui est justement marquée par une fictionnalisation.
On va en parler. François Livenet, dire mal, c'est dire vrai.
Oui. Non, il y a aussi quelque chose qui me semble important, et ça vous le soulignez dans votre livre, c'est que Junger, par exemple, est revenu sur le texte d'Orage d'Acier, le corrigera, le modifiera, et je ne crois pas qu'il faille ici imaginer une sorte d'autocensure ou une façon d'excuser éventuellement des saillies qui passeraient mal. Je crois que c'est parce que ce sont des textes fondateurs, et ce sont des textes qui vont accompagner, au moins de manière souterraine, l'ensemble de l'œuvre. Ça vaut chez Malaparte, ça vaut chez Junger.
Avec comme une double exigence, Nicolas Beaupré, je parle de la censure, il fallait, pour témoigner de ce qu'était la réalité du terrain, du combat, de la mort et de la survie, il fallait produire un texte d'une forte intensité, et en même temps, on pouvait pas tout dire, puisqu'on pouvait pas donner de la guerre une image trop négative, et puis révéler des choses qui auraient été de l'ordre du secret militaire, mais de l'information.
Alors, la censure, c'est, pour les livres, elle est très ambiguë, en fait, Alors, effectivement, il y a toute une série de règles que les écrivains doivent suivre, Ne pas révéler des lieux, ne pas décrire avec précision des armes, ne pas évoquer les unités. Mais sachant que ces règles, elles s'appliquent aussi à la presse. Et évidemment, pour un livre qui raconte des événements qui sont passés 2 ans auparavant, l'enjeu, il est moins net. Alors après, il y a aussi une dimension politique dans la censure, Sachant que la censure des livres, elle est quand même beaucoup moins sévère que pour la presse. Et puis, derrière censure, il y a aussi censeur. Et les gens du bureau de la presse qui s'occupent des livres sont souvent eux-mêmes des écrivains.
Dont Apollinaire, c'est ce que vous nous apprenez.
Après sa blessure, effectivement, qui a travaillé au bureau de la presse. Et par exemple, dans le cas de Barbus, où son livre, effectivement, est perçu, on pourrait en discuter longuement, mais il est perçu en tout cas comme effectivement le premier témoignage pacifiste.
Rappelle l'année
1916. Le premier livre pacifiste sur le conflit, il est d'abord paru en feuilleton dans un journal de gauche, et puis ensuite il paraît en livre et il n'est pas censuré. On sait que Barbus, il avait ses relations et avec le bureau de la presse, il connaissait en tout cas des censeurs qui y travaillaient. C'était des journalistes et des écrivains qui avaient la bonne planque là, et donc qui parfois n'étaient pas toujours aussi sévères qu'ils voulaient bien.
On le lui reprochera d'ailleurs à Genevoix. À Barbus. Ouais.
Alors Genevoix, lui, il a été censuré en revanche. Hein, il était moins connu. Alors là aussi, on voit les différences de traitement. Hein, le premier livre de Genevoix, il a souffert beaucoup de la censure, et on dit que c'est une des raisons pour lesquelles il n'aurait pas eu le prix Goncourt. Hein, les prix littéraires sont remis pendant tout le conflit à des écrivains combattants. Et du coup, quand on est censuré, c'est sûr qu'on a moins de chances d'avoir un prix.
Plus vrai que vrai, la playlist de Laurent Polleret ce soir pour commémorer le 11 novembre 1918. Alors là, on évoquait avec vous Nicolas Beaupré. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Écrits de guerre aux éditions CNRS, poche Biblis. On évoquait les écrivains combattants pendant le conflit. Et effectivement, arrive cet armistice qui nous rassemble ce soir. Et là, au lendemain de la guerre, tout s'effondre. Enfin, je veux dire par là, je parle du moral, mais je parle des ventes et des publications. Vous donnez justement à la suite de Norton Cru, des espèces de statistiques. On passe de 100 à 200 parutions par an, à zéro en Allemagne, voire à zéro en France, à deux.
Oui, ça baisse très vite. Alors, il y a un court moment...
On ne veut plus entendre parler de la guerre. Terminé.
Encore en 19, il y a un certain nombre d'écrivains qui avaient gardé qui voulaient pas être censurés, hein, qui avaient donc gardé par-devers eux leur texte, hein, et qui publient tout de suite après la guerre. Donc, au début de l'année 19, hein, par exemple, en France, c'est notamment les livres de Léon Werth, hein, Clavel soldat, Clavel chez les majors.
Disponible chez Viviane Amy.
Ouais, qui sont des romans, là aussi, fondés sur sa propre expérience, hein, qui sont remarquables. Et lui, il a attendu, il voulait pas être censuré. Hein, donc il y a un certain nombre de livres comme ça, d'auteurs qui attendent l'immédiate.
D'autres noms.
Alors il y a aussi Dorgelès qui publie en 19, hein, les Croix de Bois juste après la guerre. Et en Allemagne, il y a par exemple un auteur qui s'appelle Paul Zech comme ça qui publie deux ou trois livres d'un coup lors de l'année 19. Il y a aussi Fritz von Unruh, hein, qui a été réédité par les éditions La Dernière Goutte à Strasbourg.
Donc, que vous avez préfacé.
Voilà, que j'avais préfacé, donc qui s'appelle Le chemin du sacrifice. Lui aussi, il avait écrit son roman pendant la bataille de Verdun, en fait, et il le publie tout de suite en la fin de l'année 18, début 19. Donc il y a un certain nombre. Mais après, effectivement, et ces livres-là, ils ont déjà une autre tonalité. Donc d'une certaine manière, ils parviennent à trouver, mais, tant bien que mal, leur public. C'est un peu comme le livre de Malaparte. Hein. Il s'inscrit dans cette veine-là, de l'immédiate après-guerre, avec une tonalité différente par rapport à ce qui s'est publié dans le conflit. Par contre, effectivement, le gros du témoignage combattant, il y a une forte chute dans les années 20. Et d'ailleurs, l'Association des écrivains combattants dont on a parlé au début de l'émission...
Il y a notamment Drieu La Rochelle.
Ouais, dont on a parlé au début de l'émission, elle s'applique à défendre en fait les intérêts de ces écrivains qui ont bien du mal à trouver des éditeurs à cette époque. Quoi.
François Livonnet.
Oui, et puis avec aussi cet écart... qui est la dimension immédiatement politique, hein, qui s'impose de plus en plus. Vous montrez bien, par exemple, que l'opposition avant-arrière, elle était un peu estompée pendant la guerre, pour des raisons qui sont des raisons de politique intérieure ou de sécurité publique.
Et aussi de liens personnels.
De liens personnels. Après la guerre, cette opposition avant-arrière, elle devient structurante. Et d'une manière, alors avant-arrière à la fois, je dirais, dans le temps et dans l'espace. À la fois avant la guerre, après la guerre, avant le combat, après le combat. Et puis spatial, l'avant et l'arrière. Et ça, on le retrouve chez la plupart de ces écrivains, et en tout cas chez Junger, chez Malaparte ou chez Bernanos.
Bernanos, ce sera central dans sa réflexion. Oui, mais d'autant plus que le paysage social a changé. Pendant la guerre, on voyait pas les combattants. C'est-à-dire quand on était à Paris, quand on était loin du terrain des opérations, on voyait rien. On avait évidemment peut-être des photos, des films, des textes dont vous parliez. On voyait rien. Mais après la guerre, tous ces gens-là reviennent. C'est un peu, on va en parler avec les soldats de Caporetto là qui déferlent sur la Vénétie. Tous ces gens-là reviennent et on voit les mutilés, les gueules cassées, on voit les mutilés de guerre, on voit les gens qui sont revenus un peu, bon, extrêmement perturbés, voire totalement fous des combats. C'est-à-dire que l'avant reflue vers l'arrière. Et là, la littérature, elle a beaucoup du mal à se confronter à ça, quand même.
Caporetto en parle. Ouais. Mais aussi, il faudrait faire une distinction entre la situation française et anglaise, où il y a une relative stabilité politique au lendemain de la guerre, même s'il y a des interrogations avec l'Italie et l'Allemagne, qui connaissent des crises sociales, politiques et des crises idéologiques, enfin des crises de représentation, pour
dire. Où les anciens combattants ont une place centrale d'acteurs en Allemagne, notamment. Nicolas Beaupré.
Oui, juste peut-être préciser quand même que pendant le conflit, il y a quand même des points de contact entre le front et l'arrière, hein, notamment en France, hein, la plupart, toutes les villes de province, il y a des hôpitaux militaires partout, quoi. Ouais. Hein, donc les blessés, on les voit quand même.
Le rapatriement. Hein.
Notamment les lycées hein, sont mobilisés. Hein. Je pense au beau roman de Louis Guilloux, Sang Noir, hein, qui raconte la guerre depuis l'arrière. Hein. Bon, c'est un roman de 35, hein, mais qui raconte la guerre à Saint-Brieuc. Et justement, ça se passe dans un lycée. Hein, le protagoniste principal, Cripure, il est professeur de lycée. Lycée dans lequel il y a aussi des mutilés, des soldats qui sont présents. Donc on a quand même une vision. Mais effectivement, après le conflit, effectivement, il n'y a plus d'avant, d'arrière. Hein, et en même temps, c'est là qu'il se structure presque davantage dans la littérature.
Oui, parce que, par exemple, chez Malaparte, il y a les deux Italies. Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde la vie politique italienne, il y a encore cet affrontement des deux Italies. En Allemagne aussi, il y aura les deux Allemagnes. Peut-être que, d'ailleurs, Junger et Malaparte n'interprètent pas dans les mêmes termes cette confrontation entre ces deux. Mais ça brouille tout de même le schéma de la lutte des classes classiques. Ça brouille le champ politique, me semble-t-il.
Alors ça c'est effectivement, ça c'est les immédiates années, les années folles où effectivement là on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Mais après, il semble que les choses reviennent dans les années 30. Céline, avec le célèbre début de Voyage au bout de la nuit, c'est quand même le début des années 30. Donc il y a quand même un troisième temps, Nicolas Beaupré, les fantômes reviennent à la faveur d'une crise où se recomposent un peu, je dirais, les tensions et les affrontements de la Première Guerre mondiale.
Alors, France-Allemagne, effectivement, traditionnellement, on dit que le livre qui va finalement lancer la deuxième vague de littérature, c'est le livre de Erich Maria Remarque, hein, À l'Ouest, rien de nouveau, hein, qui effectivement à ce moment-là est un succès mondial, en fait. Hein. Le Feu de Barbus, il avait été traduit en 10 langues entre 1916 et 1920. Hein, le À l'Ouest, rien de nouveau, il est traduit en plus de 50 langues. Quoi, hein, et il est traduit de manière quasiment simultanée qu'il paraît en Allemagne. Hein, il paraît en Allemagne en feuilleton à la fin de l'année 28, il paraît en volume au début de l'année 29, et en France, il paraît aussi en 1929, en français. Donc là, et effectivement, c'est un succès gigantesque. Plus d'un million d'exemplaires vendus en Allemagne, des millions d'exemplaires vendus à travers le monde, et ça va lancer une sorte de revival, en fait, de la littérature, avec des caractéristiques qui sont en fait aussi nouvelles, avec une fictionnalisation, donc beaucoup plus importante que pendant le conflit, on en parlait tout à l'heure déjà, avec aussi une politisation.
Donc moins de récits de témoignages,
moins
et plus de romans.
Plus de romans. Ouais. Hein, il y a aussi Le Grand Troupeau de Giono, il y a La Peur de Gabriel Chevalier, et puis en Allemagne, hein, effectivement.
Avec des motivations pacifistes. Là.
Avec des motivations soit pacifistes et en Allemagne nationalistes. Hein, parce que derrière, il y a une interview célèbre d'ailleurs de Junger à un journal anglais. Junger, quand il a été traduit en anglais, les critiques britanniques, en fait, ont cru que c'était une sorte de deuxième remarque. Hein, et ils ont lu ça comme c'était réaliste, ils ont pensé que c'était pacifiste. Quoi. Et donc, Junger, il a été vite détrompé les journalistes. Hein, il leur a dit je pense que le livre de Erich Maria Remarque, c'est un camouflage qui cache en fait une autre littérature, hein, qui est une littérature pour le coup anti-pacifiste, hein, et plutôt nationaliste.
France Culture, Mauvais Genre, François Angelier.
Voilà qui reçoit ce soir Nicolas Beaupré pour évoquer les écrivains combattants de la Première Guerre mondiale. Alors, parlons de notre trio ce soir, Ernst Jünger. Alors, allons-y des souvenirs au micro de France Culture. Et j'étais là, je pense que je tenais le micro. On lui avait posé comme question au moment du centenaire de la bataille de la Somme. Je pense que c'était Patrice Gélinet qui lui avait demandé, Monsieur Jünger, quel est votre pire souvenir de la Première Guerre mondiale? Et il avait répondu, ah, de l'avoir perdu, bien sûr. Voilà, c'est encore, il avait plus de 100 ans ou presque à l'époque. Alors, Jünger, bah, c'est peut-être François Livonnet, le combattant emblématique, une espèce de d'icône, j'ai presque envie de dire, du combattant de la Première Guerre mondiale.
Oui, tout à fait. Je voudrais réagir un tout petit peu sur la phrase que vous venez de citer, sur sa réponse. Je ne crois pas qu'il faille l'interpréter en termes de cynisme. C'est pas
cynique. Pas ce qui n'a été fait.
Non, je sais bien. Mais on pourrait très bien considérer cynique. Surtout que ça se passait.
Pas dans ce travers.
Ça se passait au mémorial de la Grande Guerre. Non, je crois que ça voulait. Il a été officier. Il a commandé des hommes au feu. Ce serait très inconséquent, d'une certaine manière, que de ne pas imaginer qu'il faisait la guerre pour la gagner. Oui, alors Jünger, vous l'avez rappelé gentiment, j'ai écrit une apologie d'Ernst Jünger, j'entends le mot apologie au sens grec, c'est-à-dire un discours, logos, qui cherche à lever des calomnies ou des accusations. Et là, on sera en désaccord peut-être avec Nicolas Beaupré.
On va voir.
Je crois que les accusations à la fois d'esthétisme, on l'a accusé, d'une littérature qui cède à la facilité esthétique, à l'art pour l'art, et sans considération pour les souffrances et la mort. L'accusation de bellicisme, je la crois aussi infondée, là il faudrait qu'on parle plus précisément de la guerre comme expérience intérieure, par exemple, ou l'accusation de fascisme. Et vous parlez à un moment donné, à propos de Jünger, de fascisme, moi je ne vois pas de fascisme chez Jünger, que Jünger est frôlé d'un peu près et d'une manière assez dangereuse certains mouvements qu'on pourrait appeler crypto-para-fascistes de l'entre-deux-guerres, du début des années 20, par exemple, certainement. Mais il y a une mise à distance très rapidement de la politique, par exemple, qui donne aux propos de Jünger, à la différence de Malaparte, qui, moi, mon ami Malaparte, il suffit de lire Caporetto pour voir que le discours politique est omniprésent. Chez Jünger, il y a un discours qui est d'abord de nature philosophique. C'est d'abord une interrogation de la violence d'un point de vue anthropologique. C'est la guerre aperçue dans sa dimension, si je puis dire, cosmique. C'est le grand jeu, c'est Héraclite. C'est plus proche de Bataille et de Caillois que de thèmes fascistes ou de la littérature fasciste de l'époque. Et d'ailleurs, les fascistes ne s'y sont pas trompés, car ils n'ont jamais réussi complètement à faire de Jünger l'un et l'autre.
Oui, moi je pense que l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Je pense qu'il a quand même eu une période, en fait, en gros, à partir de 1922-23, jusqu'à la montée du nazisme, en fait, où effectivement, il était quand même un des auteurs de ce qu'on appelle la révolution conservatrice en Allemagne, un des auteurs phares. Il a d'ailleurs, on a réédité il y a quelques années, enfin il y a une dizaine d'années, ses écrits politiques, parce qu'il a aussi donné de nombreux articles, en fait, à toutes sortes de revues de ce mouvement, enfin qui n'est pas un mouvement, qui est en fait plutôt un courant d'idées, la révolution conservatrice, aussi aux revues d'anciens combattants, et puis dans les remaniements même de Orage d'acier, entre 1922 et 1931. Par exemple, il rajoute une fin à Orage d'acier. Il rajoute deux paragraphes à la fin du livre dans lequel il dit que voilà, tant que la guerre, bon, je cite de mémoire, vous m'excuserez, mais que tant que la victoire ne sera pas allemande, les poignards continueront à luire dans la nuit. Bon, avec une imagerie quand même. Donc effectivement, je vous rejoins sur effectivement la dimension anthropologique, l'interrogation anthropologique sur qu'est-ce que la guerre, mais à mon avis, ça ne s'oppose pas nécessairement aussi à une lecture politique, au moins jusqu'en 31-32, jusqu'en 30. Et c'est vrai que, et en revanche, je pense aussi qu'il y a une dimension esthétique, alors pas, je dirais pas esthétisante, mais qui d'ailleurs, à mon avis, enfin c'est mon avis, fonde aussi sa répugnance à l'égard du nazisme. Pour Jünger, le nazisme, c'est vulgaire, quoi. Et lui, c'est une sorte de voilà. Il défend une sorte d'esthétique du guerrier quand même, je pense, et qui lui est propre, et qui est effectivement distinct du nazisme, mais qui par bien des aspects peut rejoindre le fascisme.
Le style de la bataille de matériel et du combat de tranchées, qu'on livrait de manière plus implacable, sauvage et brutale que l'on n'avait jamais fait, engendrait des hommes tels que le monde n'en avait encore point vu. C'était une race toute nouvelle, l'énergie incarnée, chargée jusqu'à la gueule de force. Corps souple, maigre, nerveux, visage en lames de couteau, des yeux que mille terreurs avaient fait de pierre sous le casque d'acier. C'étaient des vainqueurs nés, axés sur le combat dans ses formes les plus horribles. Leur assaut à travers des paysages volés en éclats représentait le triomphe ultime d'une fantastique épouvante. Là où leurs bandes de risque-tout forçaient des positions disloquées, où des formes blêmes les fixaient de leurs yeux fous, des énergies insoupçonnées se libéraient. Saltimbanque de la mort, maître S-flamme et explosif, fauve splendide, tels ils fonçaient à travers les tranchées. À l'instant du choc, ils étaient quintessence de toute l'agressivité guerrière que le monde a jamais portée. Un amalgame exacerbé du corps, de l'intellect, du vouloir et des sens. Voilà un extrait de La guerre comme expérience intérieure d'Ernst Jünger avec François Duvonnet. La guerre, la Première Guerre mondiale invente un nouveau type de combattant, la guerre de matériel, c'est-à-dire une espèce de fureur, d'abord sur ce que Bernanos s'appellera la guerre démocratique totalitaire, et puis surtout la mise à disposition d'une puissance matérielle et technologique unique et nouvelle.
La figure du travailleur, c'est-à-dire voilà. Qu'après le paysan et le soldat, c'est ce profil le travailleur. Et là, il y a une analyse, en effet, très originale, très forte. Bon, le texte « Travailleur » paraîtra au début des années 30, mais ça va inspirer Heidegger, etc. Et là, il y a pas simplement le fait de découvrir qu'il y a des moyens de destruction de plus en plus massifs, de découvrir qu'il y a de nouvelles manières de faire la guerre, par exemple l'aviation, hein, avec un autre point de vue sur les combattants, mais aussi quelque chose que verra bien, par exemple, quelqu'un comme Gunther Anders, c'est ce qu'il appelle une esthétique, une utopie inversée. C'est-à-dire que l'utopie, ça consiste à essayer de se représenter ce qu'on ne peut pas produire. Là, les hommes produisent ce qu'ils n'arrivent plus à se représenter, ne serait-ce que même par l'imagination. C'est-à-dire, quelles sont les implications de cette transformation du monde à laquelle ils assistent.
Nicolas Beaupré, on va passer à une autre figure, Curzio Malaparte, avec ce livre « Viva Caporetto », livre 1920, donc la période dont nous parlions, paru aux belles lettres, remarquablement présenté et traduit d'ailleurs par Stéphanie Laporte dans la collection « Mémoire de guerre ». Alors là, Malaparte, c'est aussi un personnage un peu jungerien quant à la forme de son engagement. Très très jeune, engagement maximum dès le départ, et puis une deuxième guerre plus tard, à la fin du premier conflit mondial, dans les chasseurs alpins.
Oui, il est encore plus jeune hein, que...
Ouais.
Puisqu'un Schwinger, il est né en 1895, hein, et lui, il est né en 1898, et effectivement, il s'engage, il fait partie de ces étrangers hein, qui s'engagent pour la France au début de la guerre. Hein, il s'inscrit dans la lignée des Apollinaires et des Sandrards, ouais. Hein, dont on a déjà parlé. Hein, mais sauf qu'effectivement, la différence que lui, il est plus jeune. Et effectivement, dans son œuvre, hein, il présente la guerre aussi, d'ailleurs, un peu comme Jünger, comme une forme d'initiation. Il y a un point commun entre les deux auteurs, hein, et c'est cette dimension initiatrice en fait de la guerre, hein, qui finalement, d'une certaine manière, le révèle à lui-même, à la fois en tant qu'homme et puis en tant qu'écrivain aussi, hein, et puisqu'il devient écrivain à cause de la guerre d'une certaine manière, comme un peu comme Jünger et comme Genevoix aussi, mais d'une autre manière, parce que pour Genevoix, assez... le pendant humaniste, c'est presque par rapport à Malaparte, quoi.
La guerre à 16 ans, Nicolas Beaupré, on découvre la vie avec la guerre.
Oui, en même temps que la guerre, oui, c'était Heiner Müller qui avait ce mot à propos de Ernst Jünger qui disait qu'il avait connu la guerre avant de connaître les femmes, hein. Ça s'applique peut-être aussi, je sais pas, hein, à Malaparte, ou en tout cas en même temps, et c'est vrai que découvrir cette guerre-là à l'âge-là, hein, on a du mal à se le représenter, hein, et lui, il essaye, en fait, de le représenter, bon, à travers un texte qui ne décrit pas
Donc, Viva Caporetto. Ouais,
qui ne décrit
alors, faut dire d'abord qu'est-ce que c'est que Caporetto.
Sa propre expérience, oui, c'est la plus grande défaite de l'armée italienne, hein, une défaite qui se traduit par la perte de 300 000 hommes, alors que la plupart se rendent.
C'est une vraie débâcle.
C'est une débâcle. Hein, là, ils ne sont pas tués, mais ils se rendent où ils refluent hein, vers l'arrière, refusant effectivement de se battre. Et le côté étonnant finalement de ce texte, c'est que Malaparte, il transforme en fait cette débâcle et cette défaite en fait en une sorte de victoire, en fait une sorte d'annonciation en fait de l'avenir, hein, qui est un avenir révolutionnaire. Alors on ne sait pas quelle révolution, hein, mais en tout cas c'est pour lui finalement ce mouvement, ce reflux des combattants est aussi une forme de refus et une révolte. Hein, d'ailleurs, il change le titre hein, de...
C'était les Saints Maudits.
La révolte des Saints Maudits.
Hein, en l'adaptant pour que effectivement il puisse paraître en 1923 hein, dans un contexte politique.
C'est vrai que l'expression Viva Caporetto, voilà, on imagine Viva Waterloo ouais, hein, en 1816. Voilà,
dans un contexte politique différent. Quoi.
Non, c'est véritablement...
Oui, c'est étonnant. Hein,
François Livonnet.
Oui, ça doit aussi vous toucher parce que Malaparte était germano-italien.
Son vrai nom, voilà. À l'époque, quand il publie l'original, c'est Zuckert. Voilà. Son vrai nom.
Et donc, ce qui posait évidemment un problème, parce que quand il se retrouvait au front avec un nom allemand. Il a changé de nom après la guerre. Oui, enfin, là, vous avez évidemment raison. C'est que, d'abord, il y a le paradoxe de ce titre. Il y a donc une victoire derrière la défaite. Et puis, quand vous parlez de déroute ou de débâcle, je crois qu'il y a 400 000 soldats qui vont tout abandonner, les armes, etc., et qui vont descendre dans la plaine du Pô. Et là, il y a une sorte de vision presque apocalyptique, au sens où il y a comme un nouveau monde qui devrait se lever. Il sera un petit peu déçu. Et là, il y a vraiment une différence avec Jünger. C'est qu'il n'y a pas chez Jünger cette dimension... Allez, politique, au sens large du terme.
Dans Viva Caporetto, d'abord, c'est une réflexion sur l'âme italienne, la race italienne, pour appeler le vocabulaire d'époque. Et puis surtout, il y a une défense du populaire, c'est-à-dire du fantassin, de l'homme de base, de celui dont personne ne veut, aussi bien les gradés que les civils. C'est véritablement la piétaille, au sens de la canaille. Et il dresse une apologie de cette armée populaire.
Et là, vous avez raison. Et là, il y a le jeu entre la différence entre l'espace et le temps, entre l'avant et l'arrière dans l'espace et l'avant et l'après dans le temps, car il dit très clairement qu'au début de la guerre, il y a une certaine exaltation des soldats qui veulent obéir et qui veulent aller au front et qui vont découvrir la trahison, parce que c'est une trahison, c'est ainsi qu'il la conçoit, trahison des élites politiques, militaires, bourgeoises. Et là, il y a un discours qui est un discours anticapitaliste, où il parle du prolétariat, il parle des galériens à propos des combattants. Là, on trouve des schémas qui vont se retrouver après dans la littérature, là, fasciste, disons-le.
Tapis dans les trous et dans la boue, rongé par les poux, lancé à l'assaut contre d'autres trous boueux et d'autres hommes pouilleux, le peuple des soldats, des bons et des ignorants, se trouva en face d'une chose imprévue, terrible et insaisissable. Une machine faite de formules, de fils de fer et de canons striés, de chimie et de balistique. Elle se heurta contre un mur d'acier, de calcul et de science. Invisible et omniprésent, contre laquelle sa pauvre masse hurlante, maudissante et implorante, faite seulement de chair, d'os et de composants humains, ne pouvait rien. La mort mécanique tuait et massacrait, labourait la terre et les bois, noircissait le ciel, éventrait les montagnes. Et les hommes, petits et gris, marchaient dans cette tourmente, tombaient, se relevaient, laids, sales, l'uniforme en lambeaux et couvert de sang, se relevaient en hurlant et se jetaient contre la machine, contre ce mur de calculs et de formules, contre la mort mécanique qui tuait et massacrait. Tac, 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 tac.
Et
Nicolas Beaupré.
Oui, c'est peut-être là le point commun avec l'extrait que vous venez de lire entre nos trois auteurs, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une critique, effectivement, de la guerre moderne, hein, en tant que déjà presque guerre totale. Alors, même si cette expression, elle est beaucoup discutée par les historiens, hein, mais en tout cas, une guerre de matériel, on va dire, hein, où finalement les hommes se retrouvent écrasés par la technique. Hein, et on retrouve ça un peu, c'est un peu un fil rouge qu'on va retrouver chez Unger, hein, jusqu'effectivement jusqu'au travailleur, hein, jusque dans ses écrits philosophiques, qu'on retrouve dans Malaparte et puis qu'on retrouve extrêmement présente aussi chez Bernanos, hein, puisque chez Bernanos, lui, il déplore finalement une sorte de mort de la patrie par l'État, en fait, comme si finalement l'État dans la guerre d'une certaine manière avait tué le patriotisme, en fait, hein, parce que finalement l'État finalement est devenu presque un organisme qui met en tous les moyens dont il dispose au service de la destruction,
le monstre, quoi. Froid, François Livonnet.
Oui, puis en même temps que cette analyse, cette pensée de la technique, la guerre de matériel, etc., il y a aussi quelque chose qui est très bien vu, qui est l'émergence d'un phénomène tout à fait moderne, c'est le rapport des masses et du pouvoir. Et on trouve cela chez les trois auteurs. Là, il y a, on pourrait se reporter aux analyses, par exemple, que fait Canetti dans « Masse et puissance »,
oui,
où il montre très bien que le héros comme le despote, ce sont des survivants. Et cette idée du survivant, qui est presque seul au monde et qui va imprimer sur le monde sa fantaisie mentale et intellectuelle, est quelque chose d'assez remarquable.
En somme, nos fils n'ont jamais pris très au sérieux notre guerre, dont nous ne leur parlions d'ailleurs, exception faite de quelques maniaques impudiques, qu'avec presque autant de réserve que de nos pauvres vieilles amours. Il est probable que leurs prochaines expériences ne les rapprocheront pas de nous sur ce point. On a motorisé la guerre. Ils ne connaîtront pas nos cloîtres boueux. Ils n'appartiendront jamais à nos ordres contemplatifs. Ils ne sauront jamais à quel point, à quelle profondeur de l'âme était descendue notre patience, ainsi qu'au cours des siècles une pierre dans l'argile. Autre chose est de voir tomber un ami, autre chose de le regarder pourrir en un lieu peu accessible, au-delà des barbelés, de retrouver chaque matin, à l'aube, en bourrant sa pipe, ce tas familier, crevé par les gaz et les rats, cette charogne. Nos fils seront plus héroïques que nous, mais ils ne le seront pas de la même manière, du moins je le souhaite, ils prendront leur guerre, puis la quitteront en camarades, sans gratitude et sans rancune, au lieu que la nôtre est entrée en nous, elle a eu le temps lorsque nos godillots poussaient des racines dans la bouillasse, elle colle encore à nos os. Voilà un extrait des Enfants humiliés de Georges Bernanos. Alors un texte écrit dans les années 40-41 au Brésil, à Pirapora, par 40 degrés à Londres, dans une guitoune avec un casque colonial sur la tête, parce que le passé ne passe pas pour Bernanos. Il n'a rien écrit sur la guerre de manière directe, aucun témoignage à l'époque. En 1926, dans Sous le soleil de Satan, c'est un livre contre la guerre, mais contre la dénaturation belliciste et patriotarde du langage. Et puis elle reviendra le hanter, la guerre, beaucoup plus tard, dans ses essais, que ce soit La grande peur des bien-pensants, Les grands cimetières sous la lune, et puis tout ce qu'il écrira au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est une espèce de guerre. Là, du coup, on retrouve les fantômes, Nicolas Beaupré.
Oui, effectivement, c'est les autres guerres, finalement, qui à chaque fois font revenir, finalement, la guerre matricielle, en quelque sorte, hein, qui est celle du premier conflit mondial. Hein. J'ai envie de lire aussi un autre extrait des Enfants humiliés, hein, qui marque bien aussi ce changement de nature, en fait, qui a opéré la Première Guerre mondiale. Ils n'ont pas survécu à la guerre. Ils n'auraient su du survivre. On pourrait dire qu'ils étaient morts bien avant l'armistice, car je crains bien que leur guerre, notre guerre, n'ait pris fin à la Marne. La guerre d'usure a usé d'avance la paix. De la guerre d'usure est sortie une paix usée. Une vraie paix devrait jaillir d'une vraie guerre, d'un seul jet, d'une seule coulée. Que cela ne se soit jamais vu, qu'il n'y ait pas eu d'exemple d'une vraie paix, d'une paix parfaite soit.
Merci Nicolas Beaupré. Donc je signale bien sûr cet ouvrage tiré de votre thèse, Écrits de guerre 1914-1918 aux éditions CNRS, et puis de François Livonnet, Apologie pour Ernst Jünger aux éditions Le Mieux. L'émission s'achève bien sûr avec Christophe Beer.
Dans des chapitres courts et précis, le Paris occulte de Bertrand Matteau, publié par Paris Gramme, dresse un catalogue bouillonnant de tout ce que la ville Lumière a compté de sociétés secrètes, cabinets de voyance, instituts psychiques, ordres hermétiques, depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à 1945. Une capitale fantasque hantée de gnostiques, kabbalistes, prophètes, satanistes, créant leurs ordres et leurs écoles, expérimentant l'alchimie, tenant conférences et faisant tourner les tables. Après la guerre de 1870, Édouard Isidore Buguet, photographe spirit au 5 boulevard Montmartre, propose à ses clients des portraits en compagnie de l'esprit d'un défunt. Ses surimpressions éventées le condamnent pour escroquerie. Madame de Thèbes publie chaque année son almanach pour être heureux et reçoit dans son entresol de l'avenue de Wagram. Henriette Couédon, la voyante de la rue du Paradis, correspondrait en permanence avec l'ange Gabriel, un privilège qui la conduira à l'asile psychiatrique. La conférencière féministe Lucie Grange affirme avoir reçu la semence divine et attend l'arrivée d'une femme messie, une Ève nouvelle. Aleister Crowley, maître anglais de la magie sexuelle, se fond dans la bohème de Montparnasse. Les artistes et écrivains s'ajoutent à la ronde. Le dandy Joséphin Péladan, dit Sar Mérodac, fonde sa propre église, l'ordre de la Rose-Croix catholique et esthétique du Temple et du Graal. Huysmans goûte aux messes noires et fréquente l'hérétique abbé Boulan. Dans les interstices du Paris de la révolution industrielle et du matérialisme triomphant, un vertige de ténèbres se propage. La foi, le charlatanisme, l'illusion, la folie et la poésie se mêlent dans un appétit occulte que le choc réaliste de la Grande Guerre ne coupe pas. Après le conflit, André Breton s'approprie à des fins surréalistes la pratique spirit de l'écriture automatique et s'initie à l'astrologie. Dans les années folles, l'exotisme divertit. Des gourous en transe annoncent la destruction de Paris, inondée par la Bièvre. Tandis que le fakir birman, natif de Saint-Étienne, se fait crucifier en salvagram et imprime des maillots à son effigie pour les coureurs du Tour de France. Dans l'Humanité, Henriette Nizan dénonce les trafiquants de mystères, voyantes, guérisseurs, éditeurs spécialisés. « Si le présent vous pèse et si l'avenir vous inquiète, écrit-elle, ne vous fiez pas aux étoiles, aux fleurs de thé, aux tarots, aux boules de cristal et aux mares de café, travaillez à changer le monde. » Documents d'archives, photos de presse, affiches, brochures enrichissent l'ouvrage qui se referme sur le zèle collaborationniste de plusieurs occultistes sous l'occupation.
Merci Nicolas Beaupré d'avoir été ce soir l'invité de Mauvais Genre. J'imagine que vous êtes très occupé en pareille époque. Je recommande bien sûr votre ouvrage Écrits de guerre 14-18. C'est chez CNRS Édition, notamment collection de poches bibliste. Ernst Jünger, eh bien, aux éditions Bourgois dans la collection Titre, mais également en Pléiade, dans la grande édition Pléiade des Écrits de guerre, le premier tome de Ernst Jünger. Curtio Malaparte, Viva Caporetto, c'est aux belles lettres. Bernanos, c'est en folio et également en Pléiade. François Livonnet nous a apporté de Quillier, Voix éclatée de 14 à 18 chez Fédérope, donc la mise en vers de paroles de Poilu. Je signale également d'autres parutions à l'occasion de ce centenaire. Albert Jean, Derrière l'abattoir aux éditions L'Arbre Vengeur. Le goût de la viande, c'est une fiction remarquable de Gildas Guyot chez Édition Inuit. De Jean Hélio, Frankenstein 1918 à L'Atalante. Et puis Le feu de Barbus, vu du côté allemand d'Das Feuer chez Casterman. Une bande dessinée de Patrick Péchereau et Joey Pinelli d'après le roman de Barbus, et puis donc cette exposition à la médiathèque de Moulins, dont vous êtes le commissaire Nicolas Beaupré, toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleret, Célia Dufour, Siam Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Christophe Beer et François Angelier. Vous remercie d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre guerrier, le héros du dernier roman de Don Winslow, Corruption. Bonsoir à tous.